Vous écoutez
RMC. RMC, le bras de fer GG.
18 octobre 1991. Pour la première fois, une équipe NBA débarque en France.
J'en ai un peu marre de cette invasion de la culture américaine, là, on n'en peut plus.
Des stars du basket américain sur un parquet français, l'événement est de taille.
Je veux pas un carrot cake le matin, je veux un croissant. Qui aime les carottes? On en a rien à foutre, les carottes, on les râpe, on les file au lapin, on fout sur les bonhommes de neige, tellement c'est dégueulasse.
Preuve de l'engouement, les joueurs sont suivis par les journalistes dans la rue.
C'est pas gentil. Non, je sais, c'est pas gentil, mais je les aime pas, les Américains.
Des ados en furie tentent d'obtenir un autographe.
Non, non, on a essayé d'appeler au cerveau, y a personne. Bah, on est au Texas, mon pote, hein. Pas rien, hein.
Des extraterrestres en visite à Paris.
Oui, oui, on va sur la Lune, oui, absolument. Oui. Mais depuis 50 ans, oui, on était les premiers, absolument. Oui, l'arme nucléaire, c'est nous au-dessus, oui, tout ça. Allez, les plus hautes technologies, on a tout du bon.
Et à chaque fois qu'une équipe NBA vient en France, c'est la même effervescence.
Oui, ils ont une pensée complètement inversée. Je veux dire, c'est le genre de peuple à rapprocher le piano du tabouret. Oh, oh, oh.
Et alors, qu'est-ce qu'ils comprennent, ces Américains, à part le rock et le twist, hein? Ma Gigi, qu'est-ce que tu croyais?
Mais si, justement, justement, mais c'est ça le problème. Il y a une désumination. J'ai la crème. J'ai vraiment une grosse crème. Bref, une désumination. Bon, bref. Can I get some burger?
Bravo, et ça va mieux, David, ou pas?
Non, ouais, ça va mieux, oui, pas de problème.
Tu saurais le redire ou pas? Non, on va pas tester. Non, on va pas tenter.
Arrête, on a eu une heure en moins là, c'est pas possible.
Pardon. Alors, c'est l'histoire d'une chimère qui est en train de devenir bel et bien réelle. On l'appelle la NBA Europe, un championnat européen affilié à la NBA qui pourrait bientôt voir le jour. Jeudi, Adam Silver, le patron de la Ligue d'or américaine, a officialisé ce projet qui remonte déjà à quelques années. Une nouvelle compétition, indépendante de la NBA, mais qui viendrait concurrencer l'Euroleague. Alors, la NBA Europe, j'aime ou j'aime pas? Dans le coin gauche, la team j'aime, représentée par les poids lourds, David Douillet et Fred Weiss.
Ouais.
Dans le coin droit, la team j'aime pas. Ils sont mignons, les petits poussins. Sarah Pitkowski, Simon Dutin.
Petit poussé, attends.
Petit poussin?
Oui, même petit poussin, attends.
Un gros poussin pour moi. Ouais. Bon,
très bien. Alors, mes gros poussins, tout va bien se passer. Et sachez que c'est extrêmement serré sur le compte X des grandes gueules du sport. C'est à ça qu'on reconnaît un bon bras de fer. Mm. C'est du 46-54. 54% j'aime pas. Vous êtes en tête. Donc évidemment Fred et David, vous allez commencer. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, spécialiste basket, Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Bonjour JC, bonjour les GG.
Salut, parce qu'évidemment, il faut bien comprendre la situation. Alors, il reste encore beaucoup de questions à régler Arnaud, mais concrètement aujourd'hui, c'est quoi le projet ?
Bien que les contours exacts demeurent flous, la NBA a décidé donc de se lancer en s'associant avec la Fédération Internationale. C'est une ligue européenne dans un système fermé. Il y aurait 12 clubs permanents et 4 invités ou promus via la deuxième compétition européenne. Ce format viendrait en concurrence frontale de l'Euroleague, le championnat privé actuel numéro 1, mais qui n'est pas viable économiquement. Adam Silver, le patron de la Ligue américaine, reste prudent, mais voit un potentiel de 3 milliards d'euros de revenus annuels pour un tel projet. Il voudrait y associer en France un club à Paris. Le PSG via le Qatar a été approché parce que la NBA veut s'appuyer sur les grands clubs de football comme le Real et le Barça qui ont déjà des équipes de basket, mais aussi Manchester City. Mais il y a aussi le Paris Basketball indépendant aujourd'hui qui est une vraie réussite sportive. Lyon et l'ASVEL de Tony Parker favorables au projet sont également une cible. Philippe Hausser, le président de la Ligue Nationale de Basket, se réjouit des propos du patron de la NBA qui entend respecter les spécificités du basket européen.
On est un continent de pays et non pas un pays continent comme les États-Unis, c'est quelque chose qui était indispensable parce qu'on le voit bien, le système pyramidal, c'est celui aujourd'hui quand même qui encore marche le mieux. Donc le fait qu'effectivement la NBA s'appuie sur les ligues nationales et les championnats nationaux, c'est un point très très fort. De façon générale d'ailleurs, je trouve que la déclaration d'Adam Silver qui est dit on va prendre le meilleur quelque part des deux mondes, il aurait pu dire le meilleur des deux cultures basket, je trouve que c'est une déclaration qui évidemment va dans le bon sens.
Le lancement de cette NBA Europe n'est pas prévu avant 2026 au moins parce que la NBA et la Fédération Internationale sont encore en phase d'exploration. Pour l'instant écarté, l'Euroleague, par la voix de son président interrogé par l'équipe, rappelle que son championnat est installé, mais il n'exclut pas de discuter à nouveau avec la NBA pour un rapprochement.
Merci beaucoup Arnaud Valadon pour ces précisions importantes évidemment avant d'entamer ce débat. Maintenant que vous avez les tenants, les aboutissants, place à l'édito, à ce que vous pensez réellement. La NBA Europe, j'aime pas. Alors je vous disais il y a quelques instants qu'on était à 46% j'aime, 54% j'aime pas. ça vient de changer de manière assez spectaculaire. On est désormais à 44% j'aime et 56% j'aime pas. Donc vous creusez.
Mais c'est peut-être pour ça que vous creusez l'écart, parce que vous n'avez pas encore parlé.
Vous creusez votre écart incroyablement. Donc
Mais c'est peut-être la compréhension de l'édito d'Arnaud aussi.
Oui, et des informations. Bah, exactement. Fred, commence. Pourquoi tu aimes ?
Alors, j'aime, c'est assez simple. Le basket est le plus beau sport du monde. Et malheureusement, en Europe, il n'est pas suffisamment développé. C'est-à-dire qu'en gros, on a une compétition qui est l'Euroleague, qui est une compétition qui est fantastique, avec des matchs incroyable, avec une ferveur incroyable dans les salles, mais il n'y a pas de broadcaster. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette puissance suffisante pour avoir un diffuseur pérenne qui nous diffuserait ces matchs de façon régulière et qui permettrait à tout le monde de s'intéresser au basket, d'une part. Ensuite, on est en train de dire que cette compétition européenne, donc qui est magnifique, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment où le basket est très très bien joué, on garderait ces mêmes règles, d'accord, mais avec la puissance marketing, économique et le savoir-faire de la NBA. C'est-à-dire qu'en gros, on ferait la même chose, mais en mieux. Donc je comprends pas comment on peut dire qu'on n'est pas favorable à ça. C'est-à-dire que on garderait les mêmes règles, on ferait à peu près la même chose, mais on aurait cette capacité qu'a la NBA, qui est quand même la ligue, la meilleure ligue du monde.
Et je pèse mes mots. Qui fonctionne en pétrodollar quand même. C'est-à-dire que il c'est pas des philanthropes, on est bien d'accord.
Mais évidemment.
Donc la NBA Europe, elle va vendre ses droits encore plus cher, elle trouvera encore moins de diffuseurs.
Est-ce que c'est pas ça justement?
Mais la NBA, le basket est un sport roi aux États-Unis.
Mais qu'est-ce que tu préfères? C'est un sport roi en Europe aussi. C'est le deuxième sport en Europe. C'est un sport roi en Europe aussi. Sauf que c'est un sport roi en Europe. Tu te rends pas compte de la ferveur qu'il peut y avoir. C'est juste qu'on n'arrive pas à le vendre. Et que
tu penses que la NBA qui va mettre des chiffres va mieux le vendre?
Évidemment, parce que c'est les experts du marketing, c'est la meilleure ligue du monde en marketing. Personne ne peut rivaliser. Donc à partir de là, qu'est-ce qui manque à l'Euroleague? De l'argent. Qui peut trouver le plus d'argent? Ben, la ligue qui est la mieux équipée pour ça. Qui va te marketer ça de façon magnifique. Qui va te vendre ça de façon magnifique.
Mais qui ne connaît pas le concept européen.
J'aime beaucoup l'idée de Sarah. J'aime beaucoup l'idée de Sarah de se dire, OK, on va avoir une compétition européenne où on perd de l'argent tous les ans. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas viable.
Mais l'Euroleague, elle fonctionne. Qu'elle n'est pas diffuseur, on est d'accord.
Elle ne fonctionne pas, l'Euroleague. Tu vois, c'est ça. C'est un souci que tu as, Sarah.
Mais non, l'Euroleague, c'est une compétition. C'est une compétition.
Il n'y a pas d'économie en Euroleague. Ce n'est pas viable.
L'Euroleague, tu es d'accord avec moi, c'est une compétition qui a trouvé une forme de juste équilibre entre une ligue fermée avec des équipes, tout en laissant la possibilité à certains clubs d'aller gagner leur place.
Toutes les équipes d'Euroleague perdent de l'argent. Tu n'as pas trouvé de formule, en fait, Sarah. C'est ridicule.
Mais la NBA, si la NBA arrive, qu'est-ce qu'elle va faire?
Elle va marketer pour que ces équipes gagnent de l'argent et que ce soit pas à fond perdu.
C'est une structure commerciale. On est bien d'accord. La NBA est une structure commerciale.
Ce n'est pas qu'une structure commerciale.
C'est surtout une structure commerciale.
Non, il y a tout à savoir.
C'est quand même une structure commerciale qui développe des marques et qui donc ne développe pas des esprits clubs. Une fédération internationale, elle organise un sport pour des nations et des clubs.
Mais
on est d'accord. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais ton déséquilibre mondial, il va exister. La fédération internationale, elle va se faire manger par la structure commerciale.
Mais qu'est-ce qu'ils pensent justement? Mais bien sûr que pour le faire ensemble.
Mais parce que les clubs.
Tu sais quand même dire.
Mais le fonctionnement européen, il n'est pas le fonctionnement américain. T'es bien d'accord? Tu ne peux pas dupliquer un fonctionnement américain en Europe.
Il y a déjà une ligue quasi fermée, Sarah. Je ne vois pas quelle est la différence.
Mais elle n'est pas fermée.
Mais là non plus, ça serait 12 clubs qui seraient bloqués et 4 qui seraient. Ça ne marche pas parce que économiquement, ça ne marche pas.
Mais que la FIBA se renforce marketing. Laisse-moi terminer, Fred. Je vais juste te donner une comparaison. La Fédération internationale de tennis avait besoin d'argent, a vendu à Cosmos en disant vous allez mieux faire que nous pour vendre la Coupe Davis. Aujourd'hui, ne connaissant pas le tennis, ne connaissant pas comment ça fonctionnait, ils ont tué une compétition et en plus ils ont refourgué ça à la Fédération internationale.
Tu sais quoi, je connais
débrouillez-vous,
pas Cosmos, je connais la NBA.
Débrouillez-vous, il n'y a plus un rond, débrouillez-vous. Ce que je veux dire, c'est que si tu mets une structure commerciale dans les pattes d'une fédération internationale qui, structurellement parlant, elle organise le sport mondial et pas uniquement européen, elle va affaiblir la FIBA. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est j'aime pas.
Elle va la renforcer, au contraire.
Ok, tous les deux, on a bien compris. Maintenant, ça va être au tour. J'attends le même numéro de claquette, hein, Simon Dutin et David Douillet. David, tu disais à Sarah, non, c'est faux. Vas-y, pourquoi tu aimes?
C'est faux parce que, d'abord, on a quelques exemples, mais quand tu parles de structure commerciale,
ce ne sont que des structures commerciales. La NBA en est une, mais la NBA, elle est spécialisée et elle a prouvé que son système fonctionnait. Moi, je vais plus loin. Hein. Je vais plus loin. Je considère, mais depuis toujours, hein, depuis longtemps, que le système qui est en place aujourd'hui fait que, en France, par exemple, et dans tous les autres pays, c'est dur pour les clubs. C'est dur pour les clubs de marketer leurs produits, de marketer leur club, d'avoir un diffuseur. Je parlais de l'échelle du championnat national. Hein. C'est extrêmement compliqué. Ils sont tous à la ramasse. Tous, sauf un ou deux, et encore. Et encore. Pour ça, il y a qu'un truc qui fonctionne, malheureusement. J'en suis pas un défendeur absolu, mais je ne regarde que les faits. Il y a qu'un truc qui fonctionne, c'est quand on ferme les choses. Malheureusement, quand on a un club qui est sûr de rester dans une division, on peut avoir des investisseurs pour le long terme. Et quand on a des investisseurs pour le long terme, on a des équipes qui se structurent, qui deviennent de plus en plus solides, qui deviennent de plus en plus performantes. Et donc, tu as un championnat qui est extrêmement performant. Et qui dit championnat extrêmement performant dit annonceurs qui viennent mettre de l'argent. Et la pompe est amorcée. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, pour moi, c'est l'avenir. Et on y passera tous. Sinon, on sera toujours en train de bric et de broc, essayer de maintenir un club à haut niveau. Et un jour, et ben, pendant 2-3 ans, ça va marcher. Et puis, pendant 5 ans, ça va se casser la figure.
David,
ça va remarcher un petit peu.
Pour compléter ce que tu dis, faut pas oublier que l'Euroleague est déjà une ligue semi-fermée, en fait.
Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure.
Donc, ça change rien du tout par rapport à ça. Sauf que.
Ça va changer sur quel club il va, mais ça, on y verra.
Oui, mais sur quel club, je suis d'accord. Mais c'est tout, en fait.
Simon veut accéder là-dessus, Simon.
NBA Europe, pour moi, c'est une oxymore. Voilà, la NBA, c'est les États-Unis, l'Europe, c'est l'Europe. Fred, je suis très étonné de par ta position parce que encore une fois, l'Euroleague a ses propres soucis. Mais foutez-nous la paix. Restez chez vous. La NBA, il faut que ça continue à faire rêver. La NBA, c'est là-bas, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Moi, j'ai grandi en m'intéressant à la NBA. On avait un match par semaine sur Canal. Ça faisait rêver. Ça reste un lointain mirage pour certains mecs. Je trouve que le schisme entre le basket européen et le basket américain, il faut qu'il continue à perdurer parce qu'il fait le charme aussi des compétitions internationales. Il a construit l'identité du basket mondial, il l'a façonné. Il y a, j'en veux pour exemple, des joueurs qui sont des légendes en Europe, Fred, et qui n'ont jamais réussi la transition en NBA, des Navarro, des Spanoulis, des Teodosic, tu sais, qui sont des véritables légendes de l'Euroligue et du basket européen.
J'ai envie qu'elle soit plus en valeur.
Tu nous vends la NBA Europe, mais Adam Silver, laisse-nous tranquille. La NBA.
Mais,
ouais.
Mais comme ça, le sport, le basket va mourir. La NBA Europe,
la ligne à 3 points, elle n'est pas à la même distance, mais en NBA Europe, on va garder la ligne à 3 points avec laquelle vous jouez, les mecs, parce qu'on n'a pas envie de vous laisser.
Mais en fait, c'est juste une ligue européenne qui
prend
un nouveau nom.
Et là où je vais en terminer, c'est que, en effet, il y a quand même des clubs, même si on nous vend la pérennité, tu sais, des clubs, encore une fois, c'est pour solidifier les contours d'une ligue de nantis, qui on garantira des revenus annuels.
La Super League, comme
en foot. Donc forcément, les plus grosses équipes actuelles, elles vont survivre, elles vont trouver leur compte, elles auront leur place à table. Mais quid des Vitoria, des Kaunas, des Bologne, des clubs qui ont réussi à exister dans le passé, qui sont des grands clubs du basket européen et qui peut-être, pour certains, vont être mis sur la touche parce que qui a envie à Manchester City, va leur demander, les mecs à Manchester dans la rue, s'ils ont envie qu'ils aient une équipe qui participe à la NBA Europe.
Justement.
Est-ce que toi qui connais mieux le basket que personne ici, t'as envie que des clubs sortent de terre comme ça parce qu'il y aura du pognon, qu'il y aura des investisseurs qui...
Et sans histoire.
Tu veux dire comme le Paris Basketball, par exemple?
Non mais justement,
la différence de toi, je suis pas foudroyé par l'émotion procurée par le Paris Basketball. Excuse-moi.
Moi, je trouve qu'ils font un super taf.
Qui bosse bien, c'est pas la question. Mais bon, ça manque un petit peu d'épaisseur.
J'aimerais qu'on explique bien pour tous les auditeurs, parce que il y a quelques jours, Tony Parker dans l'équipe s'est exprimé là-dessus, où il voit d'un très bon œil cette NBA Europe. Il dit, je pense que c'est important pour nous de s'associer à ça. Lui, en tant que président de l'ASVEL, alors qu'il est en Euroleague, je ne peux pas dire grand-chose sur les discussions, mais le seul truc que je peux dire, c'est que je veux qu'il y ait la NBA Europe et qu'on ait envie de faire et j'ai envie qu'on fasse partie de cette NBA Europe. Aujourd'hui, il y a 13 clubs actionnaires de l'Euroleague, dont l'ASVEL, qui se sont engagés avec l'Euroleague jusqu'en 2040. Donc, pour casser le contrat, il faut évidemment verser une somme d'argent pour aller dans une autre structure. Question très simple, Fred. Est-ce que ça veut dire que c'est il y aura l'Euroleague et la NBA Europe, ou en fait l'Euroleague va mourir, place à la NBA Europe, et donc tous les clubs qui étaient en Euroleague vont aller en NBA Europe?
Honnêtement, comme ça, de but en blanc, c'est difficile de donner une réponse. Pour moi, l'Euroleague va mourir. Pour moi, l'Euroleague va mourir parce qu'il n'y a pas de réalité économique à l'Euroleague.
Ok, donc l'Euroleague meurt.
Donc je vois pas comment elle pourrait.
On sait mourir, en fait, que la NBA Europe s'intéresse au PSG. Donc à QSI, qui est investi évidemment dans le foot, dans le judo.
C'est sexy de s'associer à une marque quand t'es
exactement
déjà une structure.
Sauf qu'aujourd'hui, il y a le Paris Basketball. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le Paris Basketball, on demande aux Qataris de racheter le Paris Basketball, parce que c'est forcément, on laisse deux clubs à Paris, un qui va en Euroleague, un qui va en...
Tu peux garder deux clubs à Paris sans aucun problème, hein. Sur le principe, il n'y a aucun souci.
Ça ne marchera pas, Fred, ils vont leur dire, vous vous démerdez, mais vous nous faites un grand club à Paris, point barre, et s'il peut s'appeler PSG, c'est quand même mieux.
Alors, s'il s'appelle, PSG, oui, mais
ça ne marche pas.
J'arrive
à ça fonctionnera aussi.
Ça ne marche pas, Fred. Regarde, ils ont déjà essayé, la NFL Europe, c'est un flop absolu, il n'y a aucune passerelle.
La NFL n'a pas la même passion en Europe que le basket.
Là,
en fait,
tu peux pas comparer. Je suis d'accord avec toi sur l'engouement.
Sur l'engouement, c'est
en NFL, ils se sont dit avec le show, avec les pom-pom girls, avec le spectacle.
Là, tu vas t'appuyer sur la FIBA et tu vas t'appuyer sur l'Europe du basket qui fonctionne très bien.
Elle va baisser pavillon, la FIBA.
Mais bien sûr que non, ils vont le faire conjointement. Preuve en est,
ils partent
de
4
fois 10 minutes,
ils partent
de shoot de la ligne à 3 points sur la même distance, ça serait une ligue européenne mieux vendue et mieux marketée, c'est tout.
David, tu voulais ajouter?
Moi je vous trouve très naïf. Quel est votre problème par rapport à l'argent dans le sport? L'argent, il est partout. Il est dans le foot, il est maintenant dans le rugby, il est dans le tennis, il est dans le golf, il est dans le basket aussi, à travers, c'est 12 milliards, la NBA, je regardais le chiffre, 12 milliards. Bon. Mais quel est le problème? Le CIO, se tient par rapport à l'argent. L'argent, tout ce qui tient le sport ne peut être tenu, malheureusement, que par l'argent. C'est comme ça, c'est le haut niveau qui est tenu comme ça. Quel est le problème? Quel est le problème d'adopter quelque chose qui fonctionne? Moi, je vois pas où est le problème.
Ça va te répondre justement.
Mais
je vais finir juste Sarah, j'en ai pour une phrase. Quand quelque chose fonctionne à la tête du navire, je veux dire, c'est dans les plus fines capillarités, même si les clubs en font pas directement partie, je peux te dire que tout le monde en profite. Ça, c'est la règle.
Je suis d'accord effectivement qu'il faut de l'argent dans le sport, mais quand tu commences une discussion, il faut que les deux parties elles aient les mêmes forces. Et aujourd'hui, quand tu vas avoir FIBA, la FIBA, et quand tu as la FIBA qui parle à la NBA, forcément, il y a un déséquilibre. Donc, celui qui va imposer ses règles, celui qui va tout imposer, c'est la NBA, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a la puissance. Mais parce que là, on parle
de deux entités. Même si c'est le cas, quel est le problème?
L'entité Fédération Internationale, c'est ce qui construit notre sport mondial. C'est lui qui est
référent. C'est pas vrai.
Mais bien sûr que si.
C'est pas vrai.
C'est une fédération internationale. C'est pas la NBA qui a l'agrément du CIO. Mais non.
Tu vas dans la rue, tu fais le test, tu prends trois gamins, tu dis le basket, c'est quoi pour vous? Il y en a cinq qui vont te citer la NBA, la FIBA, ils savent même pas ce que c'est.
Non mais d'accord, voilà, mais là on parle d'image, on parle pas de structure. Ce que je veux dire, c'est que il y a deux
NBA
entités qui sont déséquilibrées. Il y aura pas de disque.
Mais ils sont suffisamment intelligents pour s'adapter au territoire où ils vont s'implanter. C'est ça qui est bien.
Mais quel meilleur gagne? Attendez, qu'est-ce que vous racontez?
Et ben tous les jeunes là, du sport commercial dans le monde entier.
Mais c'est ce que je suis en train de te dire.
Le CIO ne sert plus à rien. Alors.
Mais c'est pas vrai, le CIO est commercial. Qu'est-ce que tu racontes?
Tu travailles
ou quoi?
Non, mais
le CIO, c'est une entité commerciale.
Oui, mais l'ADN, ça ne l'est pas.
Pourquoi on a choisi l'ADN, ça ne l'est pas.
Il y a une neutralité du CIO quand même.
Je te donne un exemple. Pourquoi les États-Unis sont systématiquement choisis une fois sur deux?
Oui, on va en parler dans 5 minutes. Oui.
Pourquoi? Pourquoi? Ben, tu le sais pourquoi.
Parce que le CIO est financé par les États-Unis.
Il faut arrêter d'être hypocrite et d'accepter que le sport, comme beaucoup de choses, c'est dirigé par l'argent. Malheureusement.
Okay.
Je suis d'accord. Mais c'est comme ça.
Ok, on a bien compris vos positions. C'était un débat enflammé, très intéressant.
Vous parliez
des États-Unis. C'est vrai qu'à partir de 11h, on va ouvrir un dossier là aussi passionnant. C'est Donald Trump avec ses deux événements sportifs sur son sol, la Coupe du Monde de foot en 2026 et les Jeux Olympiques en 2028. On en parle à partir de 11h. Je sens qu'on va encore s'amuser, les copains. Les scores, donc, on termine à 45-55. 55% j'aime pas, 45% j'aime. Voilà, vous avez gagné un petit pourcentage. Fred et David, bravo à vous les copains. En tout cas, c'était très serré.
Merci,
il est 10h30.
Franchement, je crois que vous m'avez convaincu.